partout au Québec. Vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
11h05 avant d'aller d'attaquer notre prochain sujet, notre spécial véhicule électrique. Merci à ce policier qui a pris le soin de nous écrire sur le 98-98.5 pour ce qui est des manifestations violentes et intimidantes devant les hôpitaux, les cliniques et tout ça. Le policier nous écrit, il dit, le problème c'est nos chefs de police qui sont davantage des politiciens que des chefs de police, et d'ajouter qu'ils détestent nos chefs de police, voir leurs policiers à TVA ou sur Facebook, être pris dans des filmé lors d'arrestation. En fait, ce que je comprends là, de votre message, monsieur ou madame la policière, c'est que les chefs de police, ils ne veulent pas de polémique avec leurs policiers. Alors, c'est peut-être ce qui explique qu'on est si gêné d'intervenir sur lorsqu'il y a une manifestation plus violente qui se déploie. Et une auditrice également qui nous écrit, elle marche, elle fait partie de ceux et celles qui s'expriment là, contre les certaines mesures sanitaires, puis elle prend le soin de nous dire que les marches, pour la plupart, se font le samedi. Alors, c'est dit, et j'ai du respect aussi pour tous les syndicalistes qui marchent, qui se mobilisent publiquement pour défendre leurs droits, leurs conventions collectives. Je mets pas tout le monde dans le même bateau. Là. Je veux juste vous rassurer. Là. On est capable de distinguer et de faire des nuances dans le contexte actuel. Là. Alors voilà, spécial voiture électrique avec Benoît Charrette, très connu chroniqueur automobile et auteur du livre L'annuel de l'automobile 2022. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Heureuse de te retrouver.
Ben, moi aussi Nathalie.
Tu animes aussi un balado, hein?
C'est absolument. Bien ça? On a recommencé notre deuxième saison. Là, on a deux émissions de fête. Ça tient la route. C'est diffusé sur le réseau Cogeco le dimanche soir à 19h. Puis j'ai un invité de marque pour notre prochaine émission qu'on enregistre cette semaine. On va parler des promesses des différents partis au fédéral en ce qui concerne l'électrification des transports. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup. Et j'ai mon collègue, ancien collègue, Daniel Breton, qui a interrogé les différents représentants des partis fédéraux en vue des élections de lundi prochain. Puis on va avoir un petit sondage maison là-dessus cette semaine. Donc j'invite les gens à nous écouter. Évidemment, c'est sur les différentes plateformes pour ceux qui veulent l'écouter en balado. Et oui, aussi sur les différentes stations du réseau Cogeco le dimanche soir à 19h.
Bien, c'est dit. 514-790-9850 pour poser vos questions à Benoît. 1-866-790-9850. C'est courriel aussi, nathalie@985fm.ca. Et l'incontournable texto 98-985. Benoît, les salons du véhicule électrique et de Montréal qui démarrent en fin de semaine et celui de Québec au centre de foire au début octobre, c'est un beau prétexte pour parler de véhicules électriques. Toi, tu arrives du salon de Munich, je crois.
Oui, en fait, qui a été rebaptisé le salon de la mobilité. Et non plus le salon de l'auto. Donc, faut plus prendre ça comme c'était auparavant. Parce que depuis 1981, le salon de l'auto en Allemagne, ça voulait dire d'abord Francfort et non Munich. Et c'était le en termes d'espace et de nombre de véhicules, c'était le plus grand salon automobile de la planète. Là, on avait des milliers de véhicules qui étaient là. Toutes les compagnies connues et même inconnues étaient représentées au salon. Alors qu'à Munich, on avait 5 constructeurs. Pas tous allemands, mais presque. Il y avait un petit kiosque Renault, un tout petit kiosque de Ford, et les autres étaient les Allemands, et c'est tout. Pas de Japonais, pas d'Américains. Il y avait Hyundai qui était l'exception coréenne, mais tout le reste, c'était des fournisseurs, des équipementiers. Il y avait 2 pavillons complets de vélos électriques. Donc, on est ailleurs. On est dans une autre ère. Je pense qu'on prend un virage. On le voit très bien dans ce qui s'en vient en automobile. Et je pense que ça va se refléter dans tout ce qui va devenir salon de l'auto. On le voit, là, on est au Stade olympique cette année quand même à Montréal avec le salon du véhicule électrique. On était aux foires, au centre des foires à Saint-Hyacinthe, au centre des congrès, il y a, en fait, avant la pandémie, donc ça fait pas très longtemps. On voit un peu la progression de tout ce mouvement-là du côté de l'électrique, là.
Et puis j'ajouterais, puis parce qu'on va plonger tout de suite, les questions sont nombreuses de nos auditeurs, auditrices. En 2035, plusieurs juridictions sur la planète, le Canada, le Québec, ont décidé de mettre fin à la vente des véhicules neufs à essence. Tu sais, 2035, certains vont dire c'est loin, mais la tendance est là. À un moment donné, on va se retrouver dans quelques années dans un monde où il n'y aura pratiquement plus de voitures à essence. Alors, comme on dit, on se prépare.
Exact.
Alors, oui, je vais peut-être y aller tout de suite avec une question d'un auditeur. Ça va alimenter, évidemment, notre conversation. On va aller joindre Marc de Matane. Tiens, pourquoi pas un appel tout de suite. Bonjour, Marc.
Bonjour. Moi, c'est plus un commentaire qu'une question. Moi, je suis un heureux propriétaire d'un RAV4 Prime.
Ah, et vous êtes parmi les chanceux, vous.
Oui, oui. Et moi, je peux vous dire que je suis tout à fait enchanté. Puis moi, c'est un hybride rechargeable, mais moi, ça me permet de faire l'évolution entre les deux. Moi, en restant en région éloignée, moi, je veux avoir un véhicule électrique, si j'en aurais un complètement électrique, avec beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire, moi, j'aimerais ça de partir de Matane, de monter à Montréal d'une shot sans être obligé de recharger. Donc, pour l'instant, moi, avec ça, quand je suis à Matane, quand je suis chez moi localement, je suis tout le temps électrique parce que ça a une 68
kilomètres. Ouais, 67, 68, effectivement, oui.
Et voilà. Puis, je suis toujours en électricité. Puis, je me sers seulement de l'essence quand je dois faire des longues distances.
Exact. Sauf que vous avez un plan B. Et c'est ce que beaucoup de gens qui s'en vont vers l'électrique aiment avoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont pas prêts à passer du tout essence au tout électrique, peut-être d'un coup sec. Et vous faites partie de ces gens-là, mais vous avez une autonomie suffisante pour faire votre train-train quotidien, pas trop loin de la maison. Puis si vous avez à aller plus loin, ben, il n'y a pas de problème. Vous avez un plan B.
Et voilà. C'est exactement ce que je vis. Puis, j'adore ça. Écoutez, j'allais depuis un an.
Okay.
J'ai à peu près mis en essence dedans, même pas l'équivalent de 300 à 400 $. J'ai 9000 km de roulé avec, puis j'ai presque pas mis d'essence.
OK. Ben, c'est un bel exemple. Puis le RAV4 Prime aussi est un très bon véhicule. Puis on en a malheureusement pas envoyé assez pour le Québec. Il y a à peu près 8 fois la demande de ce qu'il y a en offre du côté de Toyota. Donc, ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur un, à date, j'ai pas entendu personne qui a eu un mauvais commentaire à propos du RAV4 Prime.
Bien. Merci beaucoup, Marc. On va donner la chance à d'autres. Merci. Merci de nous écouter de Matane. Un autre Marc, mais avant d'aller à Marc, je demeure en campagne. J'ai besoin d'une traction intégrale fiable. J'affectionne les VUS et j'aime une conduite sportive. Des suggestions, cette personne a un Audi SQ5. On dit
SQ5. Oui, oui, oui. Bon,
SQ5, okay.
Donc, ça me donne une idée du budget. Le SQ5 demeure un bon modèle. C'est le modèle plus sportif de la Q5. Il y a dans cette gamme-là le BMW X3 aussi qui est intéressant. Il y a un modèle hybride qui existe, qui est fort intéressant à conduire, que j'ai eu l'occasion d'essayer un petit peu plus tôt cette année. On peut aller du côté du Mercedes GLC aussi, qui est dans le même gabarit. Si on veut une conduite un peu plus confortable, mais on a pris la peine de dire sportif, là, je pense que faut rester un peu en Allemagne. La seule exception qu'il y aurait, le Mazda CX-5 qui arrive dans une version signature avec un moteur 2.5 turbo est impressionnant au niveau de sa conduite, sa tenue de route, puis un peu moins cher que la concurrence, puis il donne quand même assez de oomph au volant pour être intéressant à conduire. Là. Moi, j'irais dans ces trois-là à première vue. Là.
Autre question, Dominique de Granby, à quand les Spyder, les motos électriques?
Ah, ça, on travaille là-dessus en ce moment. Il y a même des gens au Québec qui en font, sauf que c'est à très petite échelle. Il faudrait parler à BRP, voir c'est quoi leur projet. Je sais qu'on en parle à l'interne. On est en train même de développer une technologie, mais j'ai pas de date précise à donner pour une commercialisation, par contre.
OK, on va aller joindre Marc au téléphone. Bonjour, Marc.
Bonjour, je vous appelle de Magog, je vous écoute par Internet, puis je m'ennuie de Sainte-Thérèse, puis la région montréalaise un peu.
Mais, c'est un peu nostalgique, mais on va mettre du bonheur dans votre vie aujourd'hui.
Ben oui, vous êtes dans un beau coin, je connais bien Magog.
Ben oui.
Ben oui, c'est super beau aussi, j'adore ça. J'avais une question un peu intrigante, pourquoi une grosse compagnie comme Mazda n'a fait aucun véhicule électrique?
En fait, Mazda n'est pas une grosse compagnie automobile. C'est pour ça qu'ils font pas de véhicules électriques. Mazda vont faire des véhicules électriques. Là, ils en ont un premier là qui s'en vient. D'ailleurs, on devait aller en Californie la semaine prochaine. Le lancement a été annulé. On va m'amener le véhicule à la maison parce que là, on resserre les normes du côté des États-Unis dans plusieurs États parce qu'il y a une quatrième vague là, qui commence à faire mal dans plusieurs États américains. Et la Californie fait partie de ces États-là. Donc, il s'appelle le MX-30. Il va arriver sur le marché d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et Mazda, c'est le premier véhicule électrique de la compagnie. Mais Mazda s'est aussi associé à Toyota, tout comme Subaru d'ailleurs, parce que ces compagnies-là n'ont pas les ressources pour produire beaucoup de modèles électriques, parce qu'il faut le dire, là, ça coûte extrêmement cher de se convertir à l'électrique. Et les petites compagnies n'ont pas les ressources financières pour se lancer à fond dans ça. Mais Mazda va en avoir. Là, le MX-30 est le premier. Le seul inconvénient, c'est que c'est un modèle qui me semble... En fait, moi, j'ai roulé le prototype de ce véhicule-là il y a 2 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était le groupe électrique qu'on va retrouver dans le modèle, mais on avait mis ça dans un châssis de CX-30, parce que le modèle MX-30, le châssis n'était pas encore prêt. Donc, on va avoir ce modèle-là. Mazda a voulu conserver les caractéristiques sportives qu'on connaît des produits, donc ils ont mis une plus petite batterie. L'inconvénient, c'est qu'il va avoir 161 km d'autonomie. Pour bien des gens, c'est largement insuffisant, surtout que ce qu'on amène sur le marché en ce moment, on parle plus de 400 km et plus d'autonomie. Mais on prépare un petit moteur rotatif qui va servir de prolongateur d'autonomie. À ce moment-là, on va avoir un hybride branchable. Et là, si on est capable de conserver la même autonomie de 161 km avec un surplus venant d'un petit moteur rotatif, ça va rendre le modèle beaucoup plus intéressant. Mais ça ne sera pas avant 2023.
Okay. Merci beaucoup, Marc de Magog. On vous souhaite une belle journée. Merci de nous écouter, Marc. Il faut aller à la pause, Benoît. On va poursuivre. Vos questions sont nombreuses. Écoute, GMC Canyon, on a-tu un modèle de rechange? La XC90 branchable Volvo, c'est fiable. La Mustang. Enfin bref, il y a des questions pour les fous, les fins, comme on dit, Benoît.
On va répondre à tout ça.
Excellent. On poursuit après la pause. C'est dans quelques instants. Merci.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando.
11h20, bienvenue à notre spécial véhicule électrique avec Benoît Charrette. Benoît, avant d'aller à Yves, qui est un auditeur, est-ce que tu peux nous parler du Ford 150 électrique? Il y a énormément d'auditeurs qui se posent la question.
C'est un modèle, en fait, c'est un modèle qui va arriver quelque part au début de l'année prochaine. Moi, je l'ai vu. On ne l'a pas encore roulé. Les modèles à rouler ne sont pas tout à fait prêts. Ce qu'on annonce, c'est, bon, ni plus ni moins qu'une révolution. Là. C'est un modèle 100% électrique, mais on promet d'avoir des capacités égales au modèle à essence. On va avoir, à place du moteur à l'avant, littéralement un coffre où on va pouvoir mettre un peu plus de 400 litres de bagages de marchandises avec, là, évidemment, la boîte derrière. Donc, c'est attendu parce que là, on en promet plusieurs. Ford va en avoir un. Il y a une petite compagnie américaine qui s'appelle Rivian, qui arrive aussi avec un modèle à peu près en même temps. Bon, évidemment, Tesla fait beaucoup parler d'elle avec le Cybertruck, sauf que là, le Cybertruck, on a remis les dates de mise en marché. Là, on est rendu quelque part à l'été ou à l'automne 2022. GM va avoir un véhicule, bon, le GMC Hummer. Le Hummer va revenir sous forme de VUS et sous forme de camionnette, mais on promet aussi un Silverado. Et même Ram a promis d'avoir un Ram et une camionnette 1500 électrique. Donc, dans
les auditeurs qui se demandent, Benoît, est-ce qu'ils doivent attendre après la première génération pour le Ford 150? Est-ce qu'on doit attendre un peu?
Bon, moi, je suis toujours prudent avec les nouveaux modèles américains parce qu'il y a souvent des petits bobos de jeunesse, que ce soit au niveau de la fiabilité du modèle, au niveau des pièces. Un exemple récent, le Ford Bronco qu'on attendait depuis 2 ans. La compagnie qui fabrique les toits qu'on remplace dans les modèles qui sont décapotables, la compagnie Webesto, a mal conçu ces toits qui ne sont pas complètement étanches. Ça veut dire que quand il pleut, vous risquez de vous faire un peu mouiller à l'intérieur. Donc là, on doit recommencer tout ça. Il y a eu des problèmes de jeunesse avec la dernière génération d'Explorer. Donc, moi, je suis toujours prudent de dire aux gens, c'est mieux d'attendre un an, voir à ce qu'il y avait de petits bobos soit réglé. De toute façon, la première année, les modèles vont arriver là à petite dose. Là. Attendez-vous pas à ce qu'on inonde le marché. Là, ça va arriver à petite dose. Lors de la deuxième et éventuellement un peu plus dans la troisième année, là, on va avoir assez de modèles pour fournir à la demande, j'ai l'impression.
OK. On va aller joindre Yves. Bonjour, Yves.
Oui, bonjour à vous deux. J'aimerais savoir, si, Benoît, si vous avez eu l'occasion de tester du côté coréen, hybride branchable, Sorento et Santa Fe qui s'en viennent prochainement.
Non, on n'a pas eu l'occasion encore. Ça s'en vient. Les modèles vont arriver sur la flotte là, littéralement dans les semaines qui s'en viennent. J'ai bien hâte. On en a entendu parler. On les a vus. Bon, évidemment, physiquement, c'est les mêmes modèles que les modèles à essence. C'est simplement au niveau de la mécanique là, qu'il y a des petites différences. Mais je n'ai pas eu l'occasion de les rouler encore. Comme je vous dis, là, c'est quelque part en octobre ou au plus tard en novembre, on va les rouler. Mais je vais faire des essais sur mon site, évidemment, annuelauto.ca. Là, ça sera là-dessus. Vous pourrez suivre ça.
Merci.
Parfait. Est-ce que vous savez si ça roule actuellement en Europe, ces modèles-là?
Ça roule déjà en Europe, ça roule aussi du côté de l'Asie. Ça s'en vient ici. Ça a commencé du côté de la Corée, évidemment, qui sont à peu près toujours les premiers marchés à recevoir ces modèles-là. Puis c'est commencé en Europe pour la bonne et simple raison que du côté de l'Europe, les émissions, la réglementation au niveau des émissions sont plus sévères qu'ici. Donc, généralement, ces modèles-là arrivent un petit peu plus tôt, mais ça s'en vient ici.
Merci beaucoup, Yves, d'avoir appelé. Avant d'aller, André, une question. Un auditeur, ils ont trois enfants, ils sont un couple, ils ont besoin d'un véhicule de 7 places. T'imagines, là, 7 places de 3 jeunes enfants, quelles sont leurs options? Est-ce qu'ils ont des options?
Ils ont des options. Bon, le véhicule que je trouve toujours encore le plus pratique, c'est la fourgonnette. Je sais que c'est pas le véhicule le plus sexy sur le marché, mais c'est de loin le plus pratique. Moi, le modèle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Sienna chez Toyota, qui est arrivé avec un modèle moteur hybride qui a une très faible consommation. Moi, j'en ai eu un en essai. J'ai fait du 7 litres au 100 pour un véhicule de ce format-là. Entre 7 et 8 litres au 100, c'est extrêmement bon. On est à du 11-12 habituellement dans les modèles équivalents. Bon, il existe toujours l'Odyssée chez Honda, qui est un autre très bon modèle. Ou si on va avoir une autonomie électrique, il y a le Pacifica du côté de chez Chrysler qui offre une autonomie d'à peu près, là, c'est autour de 50 km d'autonomie. Donc, qui est un modèle hybride. Ça, c'est dans les fourgonnettes. Sinon, bon, on peut aller dans les utilitaires, mais pour un vrai 7 places, il faut aller dans des formules où on a des modèles assez imposants. J'aime beaucoup le Kia Telluride ou le Hyundai Palisade, qui sont des modèles récents, très bien faits, très convivial, bien construit, garanti de 5 ans, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ou le traditionnel Honda Pilot, qui n'est pas jeune, mais qui a encore une place de choix sur le marché.
Okay. Actuellement, ils ont une Santa Fe 2020 pour ta bonne gouverne.
Ah bon, on OK. Aller... Bon, ben ouais. C'est ça. Dans le Kia Telluride ou le Hyundai Palisade, là, c'est comme la coche au-dessus. Là.
OK, super. On va aller joindre André qui a une question à propos de Volvo, je crois. Bonjour, André.
Oui, bonjour, madame. Moi, je voudrais savoir, la nouvelle voiture électrique de Polestar qui a annoncé dernièrement...
Oui, le Polestar 2.
Oui.
Oui.
Combien qui coûte puis son fonctionnement?
Bon, c'est un Polestar 2 qu'on veut un petit peu moins cher. C'est le modèle d'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est une version à propulsion. On avait le Polestar qu'on avait, le Polestar 2 sur le marché qu'on avait, c'est un modèle à 4 roues motrices, donc avec 2 moteurs, plus puissant, mais aussi plus dispendieux. Le modèle qu'on a présenté récemment, c'est un modèle à propulsion, donc roues motrices arrière. Il y a un seul moteur, il est moins cher. Là, j'ai pas le prix avec moi par cœur. Faudrait que je regarde, j'ai pas de notes avec moi aujourd'hui. Puis c'est un modèle qui a été présenté là récemment. Là, le lancement du modèle était il y a 2 semaines à peine. D'après moi, là, ça va être dans les 50 000 $ et des poussières. Bon, évidemment, une propulsion, c'est pas l'idéal l'hiver. On aime mieux avoir une traction l'hiver ou 4 roues motrices dans le meilleur des cas. Mais je ne l'ai pas roulé encore, donc j'ai pas d'opinion de forme. informé. En fait, je pouvais pas aller au lancement. J'allais au Salon de la mobilité à Munich et je n'avais pas le droit de voyager 14 jours avant et 14 jours après le salon. Donc, je ne pouvais pas aller à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et là, ben cette semaine, j'avais un lancement en Porsche où je ne peux pas aller parce que ça fait seulement 8 jours que je suis revenu de Munich. Alors, on est un peu restreint dans nos déplacements. Là, mon prochain, ça sera la semaine prochaine où j'irai essayer un produit Lexus en Arizona. Donc, pour le moment, j'ai pas encore d'opinion parce que je ne l'ai pas roulé. Mais dans sa version Polestar 2, c'est un modèle qui est intéressant, qui ressemble beaucoup à Volvo parce que c'est de la technologie Volvo, très épurée à l'intérieur. Le confort est très bon. Mais là, je devrais me réserver pour le modèle de base parce que je ne l'ai pas roulé encore.
OK. Merci beaucoup, André. Sur un auditeur qui nous écrit sur les Volvo XC90 branchables, est-ce que c'est fiable pour toi?
Pour le moment, les nouveaux moteurs de Volvo se sont montrés fiables parce que technologiquement, Volvo a choisi le moteur unique, c'est-à-dire que tous les modèles ont un moteur 4 cylindres 2 litres qui va soit avoir un turbo, soit avoir un turbo et un compresseur. Donc, on peut varier la puissance là, de 250 à plus de 400 chevaux. Mais jusqu'à date, les modèles Volvo de nouvelle génération se sont montrés fiables, effectivement.
OK. Plusieurs auditeurs nous demandent s'ils veulent, avant d'aller à Yves, ceux qui ont besoin d'un véhicule électrique pour tirer une roulotte, là, tu sais, quand même quelque chose, une petite roulotte, mettons, là, avec du poids derrière, là. Et qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe sur le marché?
Les véhicules électriques, en général, ont, parce qu'il y a un très bon couple, ont une assez bonne capacité de remorquage. C'est-à-dire que ça va être souvent l'équivalent des modèles à essence de même format, là. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas encore de... Bon, on parlait tantôt du F-150 Lightning, le modèle électrique du F-150 qui va avoir, lui, une très bonne capacité de remorquage pour ceux qui ont des véhicules plus lourds à remorquer, comme des roulottes. Mais pour les petits modèles, il n'y a pas grand-chose encore sur le marché qui peut amener, là, qu'on pense à des modèles comme la Bolt ou la Bolt EUV. Il n'y a pas encore de grande capacité de remorquage. On a d'autres modèles hybrides. On parlait du RAV4 Prime tantôt, qui ont des capacités raisonnables. C'est pas du 100% électrique. Puis les autres, ben ça s'en vient. Fait que pour le moment, là, je pense qu'il faut être un petit peu patient. Il n'y a pas encore beaucoup de modèles qui offrent des possibilités à ce chapitre-là. Mais là, bon, faut mettre un peu ça sur le dos de la pandémie. Je sais que la pandémie a le dos large, là, mais et aussi les puces électroniques là qui ont fait en sorte que la production a été très ralentie, effectivement.
OK. On va demander à Yves, puis on va peut-être parler quelques secondes au retour de la pause des puces électriques, mais on va surtout aller jaser avec Yves, à qui je demande d'être patient, parce qu'on doit aller à la pause, malheureusement. Les impératifs de la radio étant ce qu'ils sont, on vous présente donc ce spécial véhicule électrique avec Benoît Charrette. Vos questions sont très, très nombreuses, je pense. Benoît pourrait faire deux, trois heures d'émission uniquement là-dessus. Il y a énormément d'intérêt. C'est dans quelques instants.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando. L'effet Normando. La parole est à vous.
11h35, bienvenue à ce spécial véhicule électrique avec Benoît Charrette. Yves, on va à vous. Vous avez été extrêmement patient. Merci. Votre question pour Benoît, Yves.
Ben oui, c'est des commentaires. J'ai eu 3 Toyota Camry hybrides. J'ai été très satisfait. Là, j'étais prêt à faire le saut. Fait que je voulais avoir 100% électrique. Fait qu'il y a un an, j'ai acheté un Kia Niro EV, 100% électrique. Puis, sincèrement, c'est vraiment un bon véhicule. Puis, j'étais inquiète au début pour, bon, ça va-tu aller au kilométrage qu'ils ont dit. Mais après un an, bon, je regarde même plus ça.
Non. Puis en fait, c'est que moi, ce que les gens me disent beaucoup quand on fait le saut du côté de l'électrique, c'est qu'on adapte sa conduite au véhicule qu'on a. C'est-à-dire que, sachant, bon, évidemment, on va presque, vous êtes autour de 400, là, vous, avec le Niro. Oui. Tu sais, les gens qui n'ont pas à aller très loin sur une base régulière n'auront jamais le souci de même regarder qu'est-ce qui reste d'autonomie. Ça va plus s'adresser aux gens qui font de longs parcours, mais même à ça, les gens prennent l'habitude d'être un peu plus vigilants, de regarder. Puis le Niro est parmi les très bons petits véhicules, très confortables à conduire aussi. Puis il y a un bon espace, malgré le fait que c'est un véhicule électrique, parce que bon, la batterie est comme sous le véhicule. Donc, ça n'empiète pas dans l'espace qu'on a là, pour mettre les bagages et tout. Donc, non, c'est un très bon choix, M. Yves.
Merci
beaucoup,
Yves. Oui.
Puis qu'est-ce que j'ai aimé de Kia, c'est qu'ils sont conservateurs. Quand ils disent 385, L'été, je peux faire 450 facile.
Ouais.
Je les trouve conservateurs, fait que ça, j'ai bien apprécié.
Non, non, sont réalistes dans leur... Moi, j'avais fait autour de 415, 420 les fois où j'ai eu de véhicule. Donc, le 400 là, est très réaliste, évidemment, dans des bonnes conditions. L'hiver, on baisse un peu, mais même à ça, il en reste suffisamment pour qu'on puisse vaquer à ses occupations.
Bien, merci beaucoup, Yves. Très gentil à vous. Avant d'aller à Jean-Philippe, Benoît, il y a énormément de gens qui vivent en condo locatif, en appartement,
ouais,
qui souhaiteraient passer au véhicule électrique, à l'électrique, mais qui ont pas, tu sais, les bâtiments sont pas équipés en bornes électriques. Comment on arrive
c'est
une solution?
Oui. En fait, c'est un sujet que j'ai abordé au Salon de la mobilité à Munich avec les gens de Mercedes qui sont en train de mettre sur pied un programme justement pour... essayer de rejoindre ces gens-là, parce que bon, il n'y a pas qu'au Québec où les gens vivent en condo ou en appartement. C'est le cas en Europe, c'est le cas partout dans les pays occidentaux. Et on veut tenter d'aller rejoindre ces gens-là. Donc, on va mettre sur pied, en compagnie de villes, de municipalités, d'organismes, des espaces de chargement qui vont se faire soit dans les stationnements qu'on a du côté des condos, soit dans des espaces qui seront réservés aux résidents des appartements dans les rues. On travaille même sur des systèmes de charge par induction pour pas avoir nécessairement une prise, mais une charge par induction comme on le fait pour son téléphone, mais pour une voiture qui sera une place de stationnement littéralement là dans le pavé où les gens installent le véhicule. Donc, on est à regarder des solutions pour ces gens-là. Puis bon, j'en ai parlé avec Mercedes, mais je sais très bien qu'il n'y a pas qu'eux qui pensent à ce système-là en ce moment. Il y aura, bon, c'est pas pour demain matin, mais par contre, étant donné qu'on va vers une plus grande, une plus grande disponibilité et un plus grand marché, ben justement, il va falloir penser à inclure tout le monde. Parce que là, pour le moment, les gens qui ont une propriété détachée, ben c'est facile. On s'installe une borne à la maison où on met une prise 240 dans la boîte électrique et le tour est joué. Sauf que pour les gens qui restent au troisième étage, au centre-ville, dans une zone où il n'y a pas de recharge, c'est à peu près impossible de charger un véhicule dans des zones comme ça. Okay. Donc, il va falloir penser à ces gens-là, mais c'est déjà au travail au moment où on se parle.
OK. On va aller joindre Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe.
Oui, bonjour. Moi, dans le fond, j'ai acheté un Chevrolet Bolt. Mon véhicule, il est prêt, sauf qu'il est en attente de livraison à cause des problèmes de batterie.
Oui, effectivement. Vous avez acheté un modèle 2021 ou 22?
22.
OK, 22. Donc, le nouveau, qui était vraiment pas cher, là, que, effectivement, bon, pour les gens qui ne sont pas au courant, il y a des problèmes avec le fabricant de piles LG. Il y a un problème dans la pile qui fait qu'il peut avoir une combustion spontanée, là. Pour aucune raison, le véhicule n'a même pas besoin d'être en charge. Il y a eu à peu près une vingtaine de cas d'incendie. Et là, du côté des États-Unis, on avait décidé de rappeler tous les véhicules depuis 2017. Ça, c'est 170 000 Bolt qui ont été rappelés. On a fait la même chose du côté du Canada. Et là, ben, ce qui arrive, c'est que on doit refabriquer 170 000 piles. Et d'abord, faut un, trouver le problème, deux, fabriquer les piles. Et après ça, on va pouvoir commencer à refaire des véhicules. Et là, évidemment, GM ne veut pas vendre les véhicules qui sont, il en restait évidemment en stock, en inventaire. Mais comme on sait qu'il y a un problème avec la pile, ben, on veut pas prendre la chance de vendre un véhicule qui a potentiellement un problème d'incendie. Alors, il y aura quelques mois d'attente. J'espère que vous êtes un homme patient parce que ça se réglera pas dans les prochaines semaines, là. Ça risque d'être assez long. On travaille jour et nuit à trouver le problème pour régler ça. Mais il faut refabriquer des piles pour tout le monde. Puis après ça, on va pouvoir commencer à penser à revendre des modèles. Mais ça risque de prendre plusieurs mois, là.
Ben, j'ai vu sur Internet qu'à partir du 25 septembre, ils recommencent à fabriquer, là.
C'est ça. En fait, on va recommencer à fabriquer les piles. Et là, bon, est-ce qu'on va prendre certaines des piles pour remettre dans des véhicules neufs et les vendre? Peut-être. Pour le moment, là, on lit les nouvelles comme tout le monde, on suit ça. Mais effectivement, je trouve ça dommage parce que j'ai eu l'occasion de le rouler, la nouvelle Bolt. Et franchement, on a amélioré le véhicule sous tous ses aspects. Là. C'est un petit véhicule fort intéressant à rouler.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Oui, malheureusement, Jean-Philippe, je dois mettre fin. Je dois passer à un autre appel. Je suis vraiment désolée parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, Benoît, là, c'est à la question de Jean-Philippe sur les délais de livraison, là, avec l'enjeu des semi-conducteurs, faut être patient.
Faut être patient. Moi, je dis à tous les gens qui ont envie de changer de véhicule, prenez-vous au minimum 6 mois d'avance. Là.
6 mois d'avance?
Ouais, ouais, okay. Ouais, ouais. Pensez-y okay. D'avance. Si vous avez besoin d'un véhicule au printemps prochain, là, c'est le temps de magasiner ça là.
OK. Bien, ça, on retient ça. On va aller joindre Martine. Bonjour, Martine.
Bonjour à vous deux. Comment allez-vous?
Ça va bien, Martine. On vous écoute sur les véhicules électriques.
D'accord. Ma question est, j'ai su que la Kia Soul était pas très, très bonne en autonomie. Alors, je voudrais savoir, la Kia Soul 2022 électrique versus la ordinaire, si je pourrais dire, à gaz. Quel est le meilleur choix? Parce que c'est ce que je veux magasiner là dans les prochains mois.
D'abord, l'autonomie est assez bonne. On parle de 385 km, donc c'est tout à fait dans les normes des modèles en ce moment, là, qui tournent autour à peu près de 400. Cela dit, ben là, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Une Kia Soul de base à essence va vous coûter à peu près 22 23 000 $ Puis la Kia Soul électrique va vous coûter à peu près 43 000. Donc, il y a une bonne différence de prix. Si vous faites beaucoup, bon, il y a des rabais qui sont appliqués, là, évidemment, à la Soul électrique. Mais si vous faites beaucoup de kilométrage, ben vous allez être en mesure d'absorber la différence. Ben oui, parce que là, évidemment, le litre d'essence, c'est à peu près 1,45 $ là. Bon, on parle de la région de Montréal, ça varie un peu province. Mais comptez que si vous faites un plein d'essence par semaine, ça va être entre 80 et 100 $ Mettons un chiffron à 100 $ dépendamment du kilométrage, c'est 5 000 $ par année. Bon, ben dites-vous que sur une période de 4-5 ans, vous allez probablement absorber le surplus que vous allez payer.
On a sorti l'amortissement, dans le fond.
Exact. Donc, c'est à vous de faire vos calculs avec le kilométrage que vous faites à chaque année. Si vous faites vraiment pas beaucoup de kilométrage, ben ça va vous prendre plus de temps à absorber.
Non, je comprends.
Donc, le principe est assez simple. Bon, il y en a d'autres qui me disent, ben moi, je veux faire un geste pour l'environnement. Ah, ben là, si vous voulez faire un geste pour l'environnement, c'est sûr que l'électrique est la meilleure solution.
Voilà. Merci beaucoup, Martine.
Merci, Martine.
Avant d'aller à la pause, justement, à partir de la question de Martine, de Joanne, rappelle-nous donc l'aide gouvernementale qui est disponible pour un 100% électrique et celle du fédéral et celle du Québec.
Voilà. Donc, pour le Québec, tous les véhicules qui sont sous la barre des 60 000 $ on a droit à 8 000 $ de rabais. Pour le fédéral, il faut que le véhicule soit sous la barre des 45 000 $ pour avoir droit à un 5 000 $ de rabais.
Donc, les deux s'additionnent.
Les deux s'additionnent, oui. Si vous avez un véhicule, bon, Martine parlait d'un Kia Soul, c'est un bon exemple. Le prix de base est autour de 43 000 pour un modèle électrique. Donc, c'est sous la barre des 45, on a droit aux 5 000 du fédéral, puis c'est aussi sous la barre des 60, donc on a droit aux 8 000. Et ce n'est pas, on n'enlève pas ça au prix de détail suggéré. Il faut faire le prix de détail suggéré, plus les taxes de transport, les préparations, moins le 13 000 ou le 5 000 ou le 8 000, là, parce que il y a des véhicules. Bon, on parlait de la Polestar 2 tantôt. Bon, le modèle Polestar 2 de base est à 49 900. Donc, ce modèle-là a droit aux 8 000 $ de rabais du Québec, mais n'a pas droit aux 5 000 $ du fédéral parce que c'est plus de 45 000 $ Donc, à ce moment-là, on enlève uniquement 8 000. Et si un véhicule, comme la majorité des Tesla, où les modèles allemands électriques dépassent les 60 000 $ ben à ce moment-là, il n'y a pas de rabais du tout. Alors, c'est le prix de détail qu'on paye.
Et c'est le concessionnaire qui s'occupe de ça. Là.
Et c'est le concessionnaire qui s'occupe de ça. Oui, oui. Tous ces calculs-là sont faits au concessionnaire, c'est enlevé, puis vous payez le prix qui est en bas du contrat.
Bien, courte pause, puisqu'on doit y aller, cher Benoît, puis on va conclure avec d'autres questions du public sur ce spécial véhicule électrique. 11h46, vous êtes à l'effet Normando sur le réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, vous écoutez l'effet Normando. Votre parole compte.
Bienvenue à ce dernier droit sur notre spécial véhicule électrique avec Benoît Charrette. On va aller joindre Paul, puis après ça, j'aurai des questions en rafale pour toi, parce que je te dis, Benoît, on aurait pu faire 2-3 heures, là, tellement les questions sont pertinentes et nombreuses.
On fera un spécial tout un avant-midi.
On va aller joindre Paul. Bonjour, Paul.
Bonjour, Mme Normandeau. Bonjour, M. Charest. Ça va bien?
Oui, merci.
J'aimerais savoir votre opinion au niveau du nouveau Jeep Wrangler 4XE hybride.
Que j'ai bien aimé. Écoutez, on a mis le moteur 4 cylindres, le 2 litres, qui est comme la base à essence, et on a ajouté un moteur électrique. Mais je trouve que la combinaison est intéressante. Et c'est une belle façon, je pense, de faire le saut avant d'offrir, parce qu'on va arriver avec un Wrangler 100% électrique. Là, on n'a pas de date précise encore. Là, le nom de concept, c'est le Magneto. On attend après ce modèle-là. Mais pour ceux qui veulent faire là, le pont entre les deux, c'est une belle façon de le faire.
Au niveau de l'autonomie, on est combien avec le Jeep?
Autour de 50 km. En fait, on a pris la même base que dans le Pacifica hybride et on l'a installé dans le Wrangler. Donc, c'est autour de 50 km d'autonomie.
OK. Puis, pour faire la trail, c'est sûr qu'on y va au niveau avec essence, là.
On peut très bien faire de la trail avec le 4xe parce qu'on l'a conçu comme le Jeep. C'est conçu comme le Rubicon. Moi, le modèle que j'avais, c'était le modèle Rubicon. Honnêtement, la garde au sol, les angles d'attaque, les angles de sortie, la protection sous le véhicule, c'est tout à fait comparable au modèle à essence régulier. Donc, il n'y a pas de gêne. On peut aller se promener assez loin en forêt avec ça sans problème.
Merci beaucoup, Paul, d'avoir appelé. Question rafale pour toi, Benoît. Par exemple, un livreur nous écrit, tu es en ville, tu fais des arrêts fréquents, ou comme Marie-Josée, que je salue, factrice à Boucherville, factrice qui, effectivement, livreur, y a-tu une suggestion pour eux?
Eux veulent aller quoi, dans le 100% électrique?
Oui, mettons, bon. Mais ils ne font pas de longue distance, des arrêts fréquents, on est en ville.
Les arrêts fréquents, c'est bon pour l'électrique parce que la plupart des modèles ont des freins qu'on appelle des freins régénératifs, donc qui retournent de l'énergie. Donc, on va même allonger l'autonomie du véhicule si on a des arrêts fréquents, donc c'est très bon. Il y a plusieurs modèles qui existent là, en ce moment qui peuvent très bien faire le travail. On parlait du Bolt tantôt quand ils vont revenir disponibles. Il y a le modèle EUV qui est le modèle un petit peu plus grand que le modèle régulier. Donc, si on fait de la livraison, le haillon est un peu plus vaste. Le prix est intéressant. Ça, c'est un modèle que moi, j'ai bien aimé. Il y a le ID.4 du côté de Volkswagen. Pour le moment, on n'a peu de modèles disponibles. On attend l'an prochain un modèle 4 roues motrices qui va être fabriqué à l'usine de Chattanooga au Tennessee. Pour le moment, on a des modèles qui viennent d'Allemagne qui sont seulement 2 roues motrices, puis c'est des roues motrices arrière, moins bon pour l'hiver. Mais moi, j'attendrai 4 roues motrices l'année prochaine. Et il y a le Leaf aussi qui est intéressant comme petit modèle de livraison du côté de chez Nissan qui offre à peu près, dans sa version la plus performante, 383 km d'autonomie. Et on parlait tantôt de Niro. Et de modèles qu'on oublie souvent, le Hyundai Ioniq, qui est très intéressant. Puis là, il y a un Ioniq 5 qui s'en vient, qui ressemble un peu plus à un utilitaire. Ça va arriver à la fin de l'année. Donc, les gens là, qui sont intéressés, il faudrait déjà appeler votre concessionnaire Hyundai là, pour mettre votre nom sur la liste.
La liste d'attente. Tu nous as dit au moins 6 mois minimum.
C'est à peu près le bon chiffre en ce moment-là.
OK. Une voiture électrique, on achète ou on loue?
Ça dépend toujours de l'offre. Acheter ou louer, ça dépend ce qu'on veut. Parce que les constructeurs, c'est un cycle, hein, l'automobile. Il y a des gens là qui vont... les constructeurs vont dire, là, on a beaucoup de retours de location sur les mains. On va plutôt favoriser le financement et ça va, à ce moment-là, donner un avantage à l'achat. Si, par contre, vous avez une location où il y a un taux de 0% et qu'il y a un prix qui est alléchant, allez sur la location. Je sais que pour les gens qui ont des compagnies, souvent, ça va être plus avantageux de louer parce que, au point de vue déduction fiscale, il y a des avantages à louer versus à acheter. Donc, moi, je dirais, informez-vous à une personne, un comptable, pour vous donner les bonnes informations. C'est sûr qu'il y a des avantages inhérents, sans parler de dollars, à l'achat, parce qu'à l'achat, le véhicule est à vous. Donc, si vous voulez le revendre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Et la location, c'est toujours le concessionnaire qui reste propriétaire. Donc, si vous le remettez après quelques années, qu'il y a quelques égratignures, que le concessionnaire n'aime pas, que les pneus sont trop usés, que l'intérieur a été un peu abîmé, on va tout vous charger ça pour le remettre en état. Alors que si vous l'achetez, il est à vous, puis vous faites ce que vous voulez avec.
Un auditeur qui j'ai 25 ans, il veut s'acheter une vieille Rabbit 2008, il veut s'acheter une véhicule électrique. Beau bon pas cher, suggestion?
Véhicule électrique, beau bon pas cher, achetez-vous les premières années des Nissan Leaf. Les 2012, 13, 14, vous allez avoir ça pour 12-13 000 $. C'est sûr que l'autonomie est pas terrible, mais si vous n'avez pas à aller loin, vous voulez de l'électrique à bon marché, c'est la meilleure solution en ce moment-là.
OK. En 10 secondes, Subaru électrique, ça s'en vient, c'est pour quand?
Ça s'en vient, ça va s'appeler la Solterra. C'est un clone d'un produit Toyota. On parlait d'association tantôt. Toyota va sortir un modèle à l'automne et Subaru, elle va appeler ce même modèle-là la Solterra.
Merci, Benoît. On poursuit ça un autre jour parce que vraiment, il y a énormément d'appétit.
Mon cerveau
merci,
est encore Benoît plein Charest. D'informations.
Excellent. Merci de votre participation active à cette émission. Je vous dis à demain, même heure, même poste. Excellente fin de journée à vous. Merci. Bye bye.